la partie décennale. Alors, les deux sont liés puisque les développements qu'on a fait, l'IPSL, bah, s'appliquent aux deux, hein, aux saisonniers comme aux décennales, d'initialiser. Donc là, il y a un gros travail d'initialiser le système. Bon, j'en dirai juste un mot après. Ensuite, au niveau des scientifiques, donc les différentes questions, donc, comme l'a dit Christophe, c'est vraiment un problème d'exploration scientifique aujourd'hui. On est très loin d'avoir des impacts ou même des applications sociétales, même si on espère en avoir un jour. Donc, il y a tout ce qui est alors en lien là avec l'expertise de l'océan, qui est les mécanismes et ELSE, les mécanismes de la prévisibilité de la MOC. Hein, donc ça c'est autour de Didier, Juliette et une étudiante en thèse au NOX, Aurélie Perfechino. Ensuite, il y a toutes les questions d'initialisation du système couplé, comme Christophe hein, vous l'a expliqué, c'est vraiment aujourd'hui tous les coûts sont permis et il y a vraiment c'est un vrai champ de recherche comment on fait. Donc ça c'est alors comment on fait pour forcer le système vers les observations? On fait un certain nombre d'études en modèle parfait. Donc la stratégie retenue à l'IPSL, à la différence du SARFAX ou d'autres groupes, c'est de faire une initialiser qu'en surface. Et donc on dirait brièvement un mot pourquoi. Et donc ça c'est le travail de postdoc de Jérôme Servona, donc sur Epidome avec Juliette, Didier et moi aussi. On est aussi en train de travailler sur des perturbations optimales pour générer les ensembles. Donc on génère une dizaine de membres et comment on perturbe initialement, là aussi il y a des questions scientifiques. Ensuite il y a tout ce qui est prévisibilité potentielle. Donc là, voir quelle est la prévisibilité potentielle d'un système couplé en mode parfait, en mode initialisé, etc. Donc ça, c'est plus le travail donc, d'Aurélie avec Juliette et Didier. Alors il y a un certain nombre d'autres études de prévisibilité qui se greffent peu à peu sur cet effort. La partie biogéochimie, puisque dans le système IPSL, on a la biogéochimie interactive, donc tous les runs décennaux ont aussi la biogéochimie. Donc ça, c'est Roland et Laurent au LSCE qui regardent ça. Un travail qui commence avec un postdoc de Serge Abdou sur la mousson africaine aussi, de regarder qu'est-ce qui est prévisible dans les prévisions décennales. Et puis évidemment la contribution CEMIP dont a parlé Christophe. Alors juste très rapidement, bon, on voit pas grand-chose. Ça c'est c'est le premier, donc c'est la SST. Dans 30 nord, 30 sud, sur l'exercice de. Sur l'exercice. Je n'ai pas de souris, bon, tant pis. Ah, si, là, voilà. Donc, on a donc en pointillé la simulation historique. En haut, les observations en gris très claires. Donc, on voit que ça ne suit pas trop. En très fort noir, c'est la simulation Node-G, où on rappelle aux observations de SST. Donc ça suit, vous voyez qu'on est en anomalie, donc l'état moyen n'est pas le même, on est autour du moyen, l'état moyen du modèle, mais par contre on suit la variabilité des observations. Et en couleur, vous avez donc les points noirs qui sont les initialisations et les modèles qu'on lâche. Donc pour l'instant on a une première série de trois membres, on est dans la deuxième série en ce moment. Donc les simulations c'est pas très rapide, pour tous ceux qui connaissent la machine Cesium, on a des gros problèmes de post-processing quand on lance des dizaines de simulations. Ça avance. Je ne vais pas rentrer. Juliette montrera plus les résultats. Donc, juste dire, notre stratégie d'initialisation, c'était en surface. Alors, la surface, ça vient de toute l'expérience autour de Nemo et de Drakkar en mode forcé, et aussi de la simulation de données dans l'océan, qui montre que très souvent, avec un travail en forçage, on va obtenir un océan qui va beaucoup plus ressembler aux observations et sa variabilité sur du long terme qu'en faisant de la simulation de données, qui va aller modifier l'équilibre du modèle d'une façon totalement incontrôlée. Donc on a choisi cette stratégie. Donc pour l'instant, ce qu'on fait pour initialiser notre système, pour faire les ensembles, donc on prend les trois historiques IPSL qui ont démarré à trois moments de la simulation de contrôle. On fait trois Node-G donc à partir de 1948 jusqu'à 2005, on rappelle à la SST en anomalie de SST observée. Et à partir de ça, on va faire notre ensemble de trois membres ou de six ou de neuf d'ensemble de trois par départ, donc ça en fait neuf en tout. Alors on est en train de réfléchir si on en fait six ou si on fait neuf directement, puisqu'on a eu un workshop France-Angleterre décennale la semaine dernière à Reading qui a montré qu'en fait ce serait plus intéressant de faire des départs pas dix par date mais un tous les ans ou un tous les quelques années, que ça échantillonnerait beaucoup mieux l'ensemble. Donc là il y a des réflexions en cours. Même si c'est le protocole CEMIP5, comme Christophe le disait, il a été fait avant qu'on ait aucune expérience ou quasi sur ce genre de truc, et il va s'affiner peu à peu. Donc, c'est trouver le bon équilibre entre contribuer à ces MIP5, mais faire de la science et poser des questions intéressantes. Voilà, donc ça, c'est juste un tout petit résultat. Donc, la carte en bas à droite qui montre la corrélation avec les observations sur le lead time de 5 à 9 ans. On voit dans l'Atlantique Nord, si on est en mode historique, c'est-à-dire sans initialisation, on a une initialisation moins bonne que si on a une corrélation moins bonne avec les observations que si on initialise. La carte de gauche, ça rejoint ce que montrait Christophe aussi au niveau du modèle du CNRM. Voilà, dernier transparent. Donc, les prochaines étapes pour l'IPSL, c'est vraiment comprendre les mécanismes de prévisibilité en lien avec les modes de variabilité. Ça, Juliette vous en parlera plus. Hein. C'est clair qu'il faut comprendre la variabilité décennale dans le modèle pour voir ce qui est prévisible ou ce qui ne l'est pas. Donc, dans l'Atlantique Nord et la circulation de retournement de l'Atlantique Nord, mais aussi dans les tropiques. Donc, ça, c'est des choses qui commenceront dans un deuxième temps. L'initialisation du système couplé, des études en modèle parfait. Donc, ça, c'est le travail de Jérôme Servona que, pareil, Juliette vous présentera. Donc, ça va nous amener à des nouvelles stratégies d'initialisation qu'on espère utiliser pour une deuxième série de runs CMIP5. Hein, donc, on a choisi de garder la basse résolution IPSL pour pouvoir faire plusieurs stratégies d'initialisation. Donc, au niveau de CMIP5, donc, faut qu'on finisse, si Cesium veut bien, qu'on finisse notre série de premières simulations, passer en CMOR, distribuer les données, faire les métadonnées. Donc, ça reste à faire. Et donc, là, une seconde série, ce que je disais, avec une nouvelle initialisation, perturbation. Et aussi l'analyse coordonnée, bien sûr, des performances. Donc, Juliette et Christophe vont la semaine prochaine à Aspen, où la communauté se retrouve pour commencer à analyser de façon coordonnée ces simulations. Voilà, au niveau projet, donc il y a Epidome, bien sûr. Il y a le LabEx IPSL aussi, qui commence et qui a un volet décennal. On va voir comment on met ça en musique. Plus un certain nombre de projets, alors à différents stades d'avancement, que ce soit européen, NR, IED, thèse. Voilà, tout ce que je voulais montrer.
Merci. Est-ce qu'il y a une question très 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 rapide pour Eric ? Bon, ben on va passer à la suite et voir tout ce que les aspects autour de la diffusion des données.
Pascal.
Oh pardon, oui.
Oui. Encore une fois, désolé de vous embêter, mais là je vois vous, mais je vois pas les présentations, donc c'est un peu. Est-ce que vous pouvez encore tourner la caméra, s'il vous plaît ?
Oui, on s'en occupe. J'ai juste une annonce très très rapide là pour les gens de l'IPSL. Pour ceux qui sont intéressés, la pause déjeuner qui est en train de se raccourcir par la dérive de temps, il y a des tickets restaurants disponibles auprès de Marie-Alice. Voilà. Oui, mais attends, parce que on en est où sur la question ? Je pense qu'on va être un peu obligé de continuer, Gérard. Tu vois rien du tout là ?
Si, je vois Massa, je vois toi.
Non, mais ça c'est normal parce que c'est la caméra qui est tournée vers la salle et celle-là on peut absolument pas la tourner vers l'autre.
Non, je vois pas l'autre, les autres. Je sais pas, je vois pas les Toulousains non plus.
Je sais mais pas bon, laquelle avait été tournée tout à l'heure.
Celle-ci qui est tournée, qui devrait.
C'est la caméra du présentateur qui est tournée vers l'écran normalement, mais là elle doit pas être activée, voilà. Donc ils sont en train de chercher à faire le
switch. Mais continuez et puis on verra bien.
D'accord.
Très bien, donc je vais vous parler de la diffusion et de l'accès aux données CMIP5, donc les données qu'on a produites en réalisant les simulations dont on a parlé ce matin. Ça implique une vingtaine de personnes, et peut-être plus, entre Paris et Toulouse. Je ne me suis pas hasardé à mettre l'ensemble des noms, parce que j'en aurais sûrement oublié. Donc un rapide état des lieux des différentes étapes de cette distribution. Donc la première étape, c'est CMOR2. Donc pour chacune des étapes, il y a du bon, du moins bon et du mauvais. Donc le bon, c'est que dès octobre, on avait déjà des fichiers CMORisés. Je pense que c'est vrai pour Paris et pour Toulouse. Dans l'ensemble, le recensement des variables CMIP5 s'est plutôt bien passé, c'est-à-dire la correspondance entre ce qu'on produit avec nos modèles et ce qui est demandé par CMIP5, donc c'est plutôt bien passé. Il y a eu des échanges entre Toulouse et Paris sur les codes CMOR2. Le mauvais, c'est que les tables ont été figées en février 2010 seulement, alors que les runs étaient déjà très avancés. Donc ça a été vraiment lourd à gérer. Donc je trouve que c'était un petit raté de la part de ce NUP5. Voilà. Quelques changements de table ont impliqué des réécritures, ce qui est toujours désagréable. Le vraiment moins bon, c'est qu'il y a un bug dans CMOR 2, c'est-à-dire que les vertices océans sont mal décrits dans les fichiers CMORisés. Ce bug a été fixé hier, et donc ça va impliquer une réécriture des champs océans. Il va falloir trouver la meilleure stratégie pour minimiser l'impact que ça aura. Voilà. Ensuite, sur la partie data node, donc une fois qu'on a les fichiers au format CMOR, on peut s'ouvrir vers ce qu'on appelle ESG, Earth System Grid, qui est en gros la technologie utilisée par CMIP5 pour diffuser ces données. Donc le bon, c'est qu'il y a une collaboration entre Paris et Toulouse pour installer les nœuds de données qui permettent d'intégrer cette grille. Et ensuite, deux très bons points sur lesquels on peut s'attarder quelques secondes pour se faire plaisir, c'est que Paris et Toulouse ont été parmi les 5 premiers groupes présents sur ESG dès mars-avril 2011. Et environ 62% des 95 téra de l'archive CMIP5 viennent de la communauté INES, c'est-à-dire de l'Europe. Et la France, disons, au sens large, est le plus gros contributeur.
Pour une fois,
dit Pascal. Donc, le mauvais côté avec ESG, c'est que les procédures de mise à jour des données sont très lourdes. C'est-à-dire que, donc on en revient au point précédent, on va devoir réécrire et ensuite republier les données qui ont des mauvais vertices. Et ça, c'est des procédures vraiment très lourdes et qui ne sont pas définies. En gros, chaque groupe va devoir définir sa propre procédure pour essayer de minimiser sa peine, disons. Donc ça, c'est un peu dommage. Et le vraiment moins bon, c'est que l'installation et l'upgrade d'une autre donnée qui permet de diffuser justement ces résultats CMIP5 est absolument cauchemardesque. Il n'y a pas de cycle de release ni de test unitaire. Donc ça veut dire simplement que si vous extrayez les softwares un jour, puis vous réextrayez le software le lendemain, vous n'avez aucune garantie que vous extrayez la même chose. À vous de déterminer les différences. Et ce qui pourrait vous aider pour déterminer ces différences, c'est d'avoir des tests unitaires. C'est-à-dire que chacune des couches de ce nœud de données puisse être testée, savoir si elle fonctionne ou pas. Et ces tests unitaires sont très mauvais puisqu'il s'agit simplement de tester l'existence de répertoires ou de fichiers, ce qui est un peu léger. Voilà. Donc, c'était pour vous dresser le tableau. Et ensuite, maintenant, on arrive au portail. Donc, on a créé des fichiers. On a réussi à diffuser nos données via un nœud de données. Maintenant, on peut y accéder via un portail. Donc, le bon, il y en a un, c'est que il y aura donc un DOI pour les données. C'est-à-dire que les données qui auront été utilisées pour faire un article qui sera ensuite cité dans les synthèses du rapport IPCC, se verront affecter un DOI. C'est-à-dire qu'on pourra toujours retrouver la donnée qui a servi à faire une analyse. Donc ça, c'était vraiment un point très fort. Ça a beaucoup de conséquences. Mais à la limite, celle-là, on est prêt à les accepter parce que le résultat est intéressant. Donc, ESG, ça marche. Mais c'est que ça marche pas très bien quand même. Un des points clés étant la couche de sécurité qui est en fait mise en place à cause des licences. Donc certains modèles sont accessibles pour tout le monde. D'autres modèles ne sont accessibles qu'à la communauté recherche. Et rien que cette petite distinction entraîne une certaine lourdeur. Et le moins bon, c'est que donc il y a 3 portails officiels pour accéder aux données CMIP5. Le PCMDI aux États-Unis, un portail au BADC en Angleterre et un portail au DKRZ en Allemagne. Mais ces 3 portails n'exposent pas les mêmes données. C'est-à-dire qu'en fonction du portail auquel vous allez vous connecter, vous ne verrez pas les mêmes résultats. Donc, par exemple, si on se fie au portail du DKRZ, l'IPSL n'a pas fourni de données mensuelles, ce qui n'est pas exact. Les téléchargements sont complexes, en particulier à cause de cette couche de sécurité. Et enfin, le plus embêtant, c'est l'incohérence des arborescences des data nodes. Ça veut simplement dire que il ne suffit pas d'apprendre la DRS, c'est-à-dire la façon dont seront rangés les résultats, pour pouvoir prédire où seraient ces résultats sur les différents data nodes. Donc c'est de cette façon-là que les gens avaient travaillé pour CMIP3. C'est-à-dire qu'il suffisait de connaître le nom de l'expérience, le nom de la variable, ce genre de choses pour pouvoir dériver son script et aller chercher les données comme bon nous semblait. Ce ne sera pas possible avec ESG. Oui. Après, ok. Donc.
On peut rajouter un point, peut-être c'est que oui. C'est pas très. C'est que c'est.
Pas très facile d'y accéder, quoi. On peut dire ça différemment. C'est-à-dire que pour accéder à un fichier, on y arrive. Mais dès qu'on veut avoir une approche systématique, ça me ferait impossible. Moi, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, mais explicitement, c'est vraiment... moi, je sais pas pour qui c'est fait, en fait. Et on a l'impression vraiment qu'il y a un problème, l'utilisateur a été un peu oublié, disons. L'utilisateur de type modélisateur qui veut faire du multimodèle sur plusieurs variables a visiblement été oublié, et c'est dommage parce que c'est nous, quoi.
Oui, c'est vrai que multimodèle, plusieurs variables, c'est extrêmement difficile de le faire depuis ces portails-là. Voilà. Donc, pour continuer sur l'aspect accès aux données maintenant, donc effectivement, j'ai oublié de dire, sur ESG, il y a à peu près une dizaine de groupes qui sont présents. Les groupes chinois, russes, quelques groupes américains, des Canadiens, des Norvégiens, les Français, voilà, j'en oublie sûrement. Bon. Donc il commence à y avoir pas mal de choses. Donc ça commence à valoir le coup d'accéder vraiment aux données pour faire du multimodèle. Donc pour faciliter ça, à l'IPSL, on privilégie cette solution qui est donc d'accéder à un cluster de calcul qui s'appelle Cyclade, qui a un certain nombre de nœuds de calcul sur lesquels on peut travailler, qui dispose de l'ensemble des outils d'analyse climat habituels. Et à côté de ça, le projet prodigué ou l'initiative prodiguée qui va à côté de ce cluster, donc rassembler un sous-ensemble de cette base de données CMIP5. Donc la base CMIP5, en gros, c'est 3 téra, dont 1 téra de données corps. Donc je crois que c'est inédit de s'attaquer à une masse de données comme celle-là, pour la communauté climat en tout cas. Donc à côté de ce cluster de calcul, on va télécharger un sous-ensemble de CMIP5. Actuellement, il y a 160 Tera de disponibles. On espère aller jusqu'à 300 Tera fin 2011, ce qui représenterait à peu près un tiers du corps, un tiers du PETA, et ce qui, on l'espère, facilitera et pourra alimenter l'ensemble des papiers dont on va entendre parler cet après-midi et demain. Prodigy, c'est également un portail beau et intuitif. Je me suis un peu lâché, mais c'est simplement pour marquer la différence avec l'opinion que j'ai de ESG. Donc c'est pour naviguer dans le sous-ensemble CMIP5. On a également mis en place un data node maison, donc un nœud de données, avec une fonctionnalité intéressante qui est l'accès OpenDAP sur agrégation. Donc ça veut dire simplement que dans la majorité des cas, les gros fichiers sont morcelés. Par exemple, si vous avez 100 ans de simulation pour la variable, typiquement une variable 3D, vous aurez 10 fichiers de 10 ans. Avec cette technique, vous pouvez ne voir que un fichier agrégé, donc n'ouvrir que ce fichier-là et ne pas avoir à vous soucier de la façon dont les différents groupes ont découpé leur gros fichier. Alors, je pense que ça, c'est un truc, enfin, c'est une fonctionnalité qui peut être vraiment intéressante quand on souhaite analyser cette base de données. Et on a aussi développé un outil simple de téléchargement CMIP5, ou du moins qui simplifie la tâche. Donc, c'est un outil qui peut fonctionner soit en standalone, donc sur n'importe quelle station, mais qu'on essaye de coupler, disons, au portail pour pouvoir définir le plus justement possible ce sous-ensemble en question. Donc c'est un outil qui est disponible pour qui veut s'en servir.
Sébastien,
oui.
Je me suis en parlé, mais si la base, les trois nœuds cœurs évoluent,
oui.
Comment la mise à jour est faite sur Prodigy? Est-ce qu'il n'y a pas...
On n'entend pas les questions.
Je disais, si les données sont mises à jour sur les sites CMIP5, est-ce qu'il y a un mécanisme automatique qui va les mettre à jour sur Cyclade, ou est-ce qu'il y a un risque que peu à peu il y ait des données pas à jour et qu'on sera obligé de retourner les chercher sur les cœurs, sur les nœuds CMIP5?
Donc c'est une très bonne question. Et donc c'est en lien avec le DOI qui va être posé sur les données. Donc en fait, chaque version de fichier, chaque fichier aura sa version. Typiquement, quelqu'un met à disposition la température à 2 mètres, découvre quelque chose, met une version 2, puis N, puis N plus 1, etc. Pour ça, l'idée, c'est de faire tourner ce script de téléchargement toutes les nuits et qui, lui, ira vérifier que les versions qui sont disponibles correspondent bien. Et là, le problème qu'on a, c'est comment est-ce qu'on va gérer le fait que, vraisemblablement, sur Prodigy, on ne stockera que la dernière version. Après on rentre dans ce genre de considération, mais la gestion des versions est quelque chose de difficile. Ensuite un bref aperçu des financements et projets actuels qui d'une façon ou d'une autre nous ont aidé à Paris et à Toulouse à faire ça. Donc il y a des sources européennes, Métaphore, Isines et EGI. Il y a des sources internationales, un projet G8, Exarch. Des sources nationales, à l'heure actuelle, aucune. Voilà, dans le futur, il y aura sûrement des choses à faire. Et je voulais rapidement revenir sur... On avait soumis à l'INSU un projet de labellisation, justement, pour cette initiative prodiguée qui avait été refusée. Donc, je prends cette occasion pour faire un... pour donner un retour propre aux différents intervenants, ce que je n'avais pas vraiment fait jusqu'ici. Donc le dossier avait été classé A, considéré comme un bon projet, pouvant sans conteste, être labellisé, mais bon, avec qui mériterait certainement une ouverture nationale plus grande ou dont l'implémentation doit être revue. Voilà, et donc, dans notre cas, donc ça c'était pour les dossiers A en général et pour prodiguer en particulier. Donc comme vous pouvez le lire, un projet intéressant, mais dans le soutien comme SORE peut faire débat, l'avis du comité est que cette initiative mérite d'être soutenue dans un cadre qu'à l'envie pourrait déterminer. Bon, ben voilà, où nous en sommes. Voilà. Et voilà, je crois que j'ai fini. Je finis par un coup de pub pour le portail dont je vous ai parlé, prodigué, donc qui permet de naviguer dans la masse de simulations pour l'instant que l'IPSL a réalisées. Donc on est en train de télécharger les données qui sont disponibles du Met Office, du CNRM et d'autres groupes, et ces données seront visibles ici aussi. Donc ça, ce sera les données, mais qui sont disponibles sur à côté du nœud de calcul Cyclades. Voilà. Et ensuite, j'en parle pas, mais à la suite de mes slides, si vous voulez télécharger la présentation, il y a des mémos qui doivent essayer de vous orienter pour voir comment les moyens les plus simples pour accéder aux données en général.
Des questions avec le micro?
Une question rapide, donc j'ai encore le micro. Est-ce que ça, c'est accessible à n'importe qui sur la planète, prodiguer.ipsl.fr?
Oui, ça, c'est accessible à tout le monde, à part l'onglet simulation.
Le risque que si ESG, ça ne marche pas, que tout le monde se retrouve là-dessus, et... vous y avez réfléchi?
Non.
Sur ce que tu as dit, qu'on ne pouvait pas retrouver des fichiers, même si on connaît les conventions sur l'arborescence, pourquoi on ne peut pas? Parce que les spécificités ne sont pas assez précises. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas.
Parce qu'il y avait un espèce de dogme chez... on va rentrer un peu dans le technique, mais je vais essayer d'être bref. Il y a un dogme chez ESG qui dit « Ok, vous distribuez des données, mais... Le protocole ne doit pas contraindre votre système de fichiers. » Bon, en gros, les gros centres veulent être maîtres de la façon dont ils vont structurer leurs fichiers dans leur arborescence. Cette arborescence-là, tu la retrouves dans l'URL du datanode. Donc, sur le datanode, tu vas voir la logique du centre de calcul qui héberge ce fichier. Mais par contre, tu as un gargantuesque fichier XML qui, lui, va te permettre, en fonction des différents éléments de la DRS, de retrouver ce que tu veux. Simplement, ce n'est pas du tout dans les mœurs actuelles d'aller d'abord faire des requêtes sur un fichier XML pour en détruire une URL que tu télécharges. Voilà.
Il y a des questions du côté Toulouse ou Grenoble?
Oui, une remarque. Stéphane Senesi. Donc effectivement, la description que Sébastien a donnée est très juste, mais pour autant, elle correspond à l'état actuel et pas à l'état cible, il me semble, pour le système ESG. C'est-à-dire qu'il y a des développements qui sont en cours pour essayer de remédier au dernier problème qu'on vient d'évoquer, la dépendance des URL, d'une partie des URL au site concerné. Alors effectivement, c'est dommage que ces développements ne soient pas finis au jour d'aujourd'hui, au moment où c'est... où il serait utile de pouvoir accéder simplement aux données. Et une autre remarque, c'est concernant les DOI. Effectivement, ça va sans doute présenter un grand intérêt pour l'ensemble de l'activité scientifique. Pour autant, l'attribution des DOI est dépendante de la réalisation d'un exercice de contrôle qualité par les trois portails principaux de données, dont aujourd'hui, on connaît pas du tout le calendrier.
C'est vrai. Donc ce contrôle qualité a commencé donc un peu par affinité. C'est-à-dire que certaines données, je pense CNRM et IPSL, ont commencé à être téléchargées pour passer les premiers niveaux de contrôle qualité. Ils vont aussi gérer l'urgence. Hein. Ils se sont mis dans une situation pas facile non plus, ESG. Donc là, ils ont vraiment quelque chose de très très gros à gérer. Mais juste pour revenir au portail, c'est vrai que le fait que les trois portails qui ne propose pas les mêmes données, ça, ça va être corrigé. Mais la difficulté qu'aura un scientifique à faire de l'analyse multimodèle, ça, ça ne sera pas corrigé avant longtemps.
Oui, puis pour compléter un peu cet aspect-là, le fait que le problème d'arborescence à très technique donc à parler Sébastien, c'est quelque chose d'extrêmement pratique, c'est que même quand tu télécharges les données, si tu les télécharges suivant l'arborescence que tu lis, ce qui est quand même le plus facile, et bien cette arborescence n'est pas la même suivant les modèles, elle varie, etc. Donc en fait, CMIP3 c'était basique, mais c'était tout le monde pareil. Là, c'est super compliqué et c'est pas tout le monde pareil. Donc, pour s'y retrouver, c'est un vrai problème. Donc, au niveau de l'IPSL, la surcyclade, on essaye d'homogénéiser les modèles, mais c'est pour dire que quelque chose d'aussi moins simple en termes d'utilisateur, c'est-à-dire avoir les mêmes fichiers au même endroit avec la même structure, eh bien, on a perdu ça. Et alors effectivement, on n'est pas habitué à gérer du XTML et du HTML ou je sais pas quoi, et en Fortran, on va lire des fichiers. Donc il y a une vraie contradiction, là, une vraie difficulté et qui ne va pas nous aider pour faire les choses rapidement parce qu'on est tous à la bourre. Quoi.
Je propose qu'on arrête là. Donc le message, c'est retroussez vos manches et dites ce que vous faites pour que tout le monde en bénéficie.
Et sinon, un dernier message quand même dans le cadre de Mystère, c'est que on montre quelque chose d'important. Si des gens sont intéressés de Grenoble ou de Toulouse, ils sont les bienvenus. Hein. Voilà, c'est pas fermé. Au cas où il y aurait un doute.
Donc on va continuer les présentations par la présentation de David. Il n'y aura pas la présentation de Guevane.
Bon, je l'ai envoyé par mail. Là, je viens de l'envoyer par mail à Grenoble, à l'adresse de Gerhardt. Donc si
c'est bon, je l'ai reçu.
Tu l'as vu? Ah, bah c'est bien, tu as accès au mail. Parfait. Bon, la question à laquelle on voulait répondre en écrivant ce papier avec Mathieu Chevalier, donc qui est en thèse avec moi, c'est de savoir quel est l'impact réel d'inclure de nouveaux processus dans la modélisation de la glace de mer, les processus thermodynamiques. Et quel est l'impact en fait sur la simulation de la glace de mer à la fois en mode forcé, NEMO 1 gelato, et en mode couplé au sein de CNRM CM5. Donc ces processus, quels sont-ils? Alors il y en a un, le premier que je cite, multicatégorie, en fait, ça c'est pas nouveau parce qu'en fait gelato a toujours été multicatégorie dès le départ. Donc par contre, on s'est livré à l'exercice amusant de tourner en une seule catégorie pour une fois et confirmer ce qu'on pensait que ça donnerait. Donc dans Gelato aussi, et inclus donc dans CNRM CM5, on a aussi de la salinité variable de glace de mer. C'est aussi Gelato un modèle en enthalpie, c'est-à-dire que la chaleur spécifique est fonction de la température et de la salinité. Alors que bon, actuellement, dans la plupart des modèles, c'est encore une fonction, enfin c'est une constante. Et bon, un petit peu plus anecdotique, parce que ça c'était relativement facile à implémenter, on a pris en compte une meilleure description du coefficient de conductivité dans la glace de mer, donc une fonction de T et S, s'appuyant sur des observations. Alors comment on a procédé? Donc on a fait des expériences de sensibilité. Alors en mode forcé, ça c'est en cours, et en mode couplé, ça c'est terminé, où en fait, pour l'instant, donc au sein du couplé, on enlève un à un les processus, quoi, pour essayer de se comparer à la simulation de base. On a fait des simulations relativement courtes, sur 1970-2007, et on a jeté 1970-1989, ce qui est largement suffisant pour faire un spin-up. Alors tout d'abord, donc dans l'article, évidemment, il y aura une description du modèle. Il y aura aussi quelques présentations sur les performances du code, d'abord en mode forcé, NEMO 1, gelato, donc avec des forçages qu'on pourrait qualifier de pré-DFS5, en fait. Donc c'est fait en collaboration notamment avec Mercator et Grenoble. Et donc on voit en haut donc l'Arctique et à gauche en bas donc l'Antarctique, à gauche le mois de mars et donc à droite le mois de septembre. Donc à chaque fois j'ai représenté en noir le bord de glace, hein, vous le voyez ici par exemple. Donc dans ce mode-là en fait il est très bien simulé, hein, que ce soit en hiver ou bon que ce soit également en été. Donc y compris en Antarctique, bon où là cependant on a quand même un tout petit manque de glace, mais bon ça devient assez anecdotique en mode forcé en été. Et en hiver austral, bon, on a une bonne représentation aussi de ça. Donc ça, c'est en moyenne climatologique sur 1990-2009. Mais on a été regarder aussi de l'interannuel pour voir comment certains cas bien connus de la communauté sont représentés, notamment le record de déplétion de banquise en septembre 2007, ici, donc qui est également, bah, vous le voyez, significativement différent évidemment de la moyenne sur la période, mais qui est assez bien représenté par le code. Donc notamment, bon, on a un petit peu trop de glace là, mais par ailleurs, il y a une bonne cohérence entre le bord de glace observé et simulé. Peut-être un problème de dynamique donc, qui subsiste dans certaines régions. Ça, ce sont des anomalies de surface de banquise, donc sur toute la période. Donc en noir, c'est l'observation, et en bleu, c'est... En bleu, c'est la simulation. Donc là aussi, on a une très très bonne cohérence. C'est pour le forcer. Alors en couplet, bon évidemment, les choses se dégradent un tout petit peu. Donc même si ça reste vraiment tout à fait acceptable pour l'hiver, comme Aurore l'avait indiqué, on a quand même toujours un bord de glace qui est très bien simulé. Bon, peut-être un petit problème ici dans le Pacifique Nord. Mais par contre, un problème qui est un petit peu plus important ici, notamment en mer de Beaufort et au nord de la Sibérie, où le bord de glace est là et où on a quand même moins de glace. Donc ça, c'est lié au premier ordre à un problème de forçage atmosphérique. Donc on a quasiment 100 watts par mètre carré de trop de solaire qui arrive sur la glace. Donc ça, bon, on n'y peut rien. Pareil en été austral, hein, on a également des biais très importants radiatifs. Et ça se ressent aussi un petit peu sur la simulation de l'hiver, bon, même si ça reste quand même encore acceptable. Donc j'en viens en deux transparents aux expériences de sensibilité. Alors, bon, j'espère que je ne vais pas trop vous perdre avec mes codes, mais à chaque fois j'ai fait la différence entre une expérience de sensibilité moins le contrôle, donc le contrôle n'étant pas le contrôle pré-industriel CEMIP5, mais l'expérience 20e siècle de base à partir de laquelle j'ai fait mes expériences de sensibilité. Donc à partir du modèle multicatégorie complet, on met juste une catégorie et on obtient quelque chose d'assez connu finalement, assez habituel. Alors il y a une part qui est assez typique d'arpège, c'est-à-dire on a tendance à avoir des vents assaisonnaux et une accumulation de glace importante à cet endroit-là. Et comme on a un monocatégorie, mais en fait la glace, ses accumulations ont plus de mal à disparaître au cours de l'été. Donc notez que l'échelle des couleurs ici, quand c'est bleu, c'est qu'on a une glace plus épaisse, et quand c'est rouge, elle est moins épaisse. Donc quand on met un CP qui est constant, alors là le message est très clair, là j'ai représenté que l'été, hein, parce que je ne pouvais pas vous embêter non plus avec trop de graphes, mais c'est assez proche ce qu'on a comme conclusion en hiver. Avec ce CP constant, donc on a moins de glace, une glace moins épaisse. Ça se comprend assez bien en fait en regardant cette équation de CP qu'on a introduite dans Gelato. C'est le CP0, donc qui est le CP constant qu'on prend en compte d'habitude dans les codes. Et c'est modulé par une fonction un peu tordue de la salinité, ici, et de la température en Celsius au numérateur. Fonction un peu bizarre. Donc quand on est, par exemple, à moins 1 degré, donc ça fait une modulation qui peut être assez importante de ce CP. Et donc, avec un CP un peu plus compliqué comme ça, on a toujours une valeur de CP qui est supérieure à ce qu'on a en standard, particulièrement lorsque la glace est relativement chaude ou relativement salée. Et donc, de façon tout à fait logique, elles font un peu moins lorsqu'on prend cette formulation de CP. Et donc, quand le CP est fixé, évidemment, donc ça en fait moins. C'est tout à fait attendu. Bon, ici, pour mémoire, l'écart type intermembre de nos simulations CEMIP5, donc nos 10 membres 20e siècle, pour montrer, bon, je n'ai pas fait de significativité encore très propre, mais c'est pour vous donner une idée du, de la dispersion entre les membres, vous voyez que c'est quand même relativement faible, hein, c'est de l'ordre de 10 à 20 cm entre les membres par rapport à ces expériences de sensibilité. Vous voyez que c'est quand même le message est quand même assez robuste. Ça, c'est l'expérience où on a plus de salinité interactive. Donc là, c'est un peu plus complexe, je pense, à analyser. Bon, on va regarder ça avec Mathieu. Mais ce qu'il faut voir, c'est que quand on n'a pas de salinité interactive, on a tendance à rejeter plus de sel à la formation de glace, à n'en pas rejeter du tout au cours de l'évolution de la glace, tant qu'elles ne fondent pas, jusqu'à ce qu'elles fondent. Et quand elles fondent, elle a une salinité qui est plus importante que lorsqu'elle s'est dessalée lentement. Et donc, on rejette plus de sel d'un coup au début et à la fin de la vie de la glace. Donc ça joue certainement sur le cycle annuel de la salinité océanique, donc avec un impact ici qu'on voit. Et ça, c'est l'impact sur du fait qu'on ne prenne plus en compte une conductivité thermique assez complexe de ce type-là, avec de nouveau une fonction en S sur température en Celsius. Il faut regarder aussi un petit peu. Mais le message, en gros, c'est que en fait, pour des glaces relativement chaudes, proches de moins 1 degré, par exemple, on va avoir une diminution assez importante de la conductivité thermique, et donc une glace qui va moins bien se former. Mais bon, comme il y a d'autres termes qui interviennent, c'est potentiellement un peu complexe pour l'instant à analyser. Et donc j'en viens au dernier transparent pour l'Antarctique. Donc on voit des messages qui sont finalement assez proches pour l'hiver en Antarctique, du message que j'ai donné pour... donc j'ai pris l'été en Arctique, mais j'aurais pu prendre l'hiver aussi. Notamment, on retrouve cet aspect sur le CP0, évidemment avec un CP0 plus important en standard par rapport à cette expérience de sensibilité. Eh bien, on fond plus lorsqu'on a un CP constant. Donc le multicatégorie versus monocatégorie, donc ça peut être intéressant aussi pour l'IM, pour l'IPSL, lorsqu'il y aura le modèle multicatégorie dans IPSL CM5, ça peut donner une idée finalement de ce que ça pourrait donner. Salinité non interactive et de nouveau le KI0 ici. Voilà, donc je vais arrêter là pour bien tenir mon temps. J'aurais pu vous donner d'autres renseignements, mais il y a peut-être des questions. Il y a rarement des questions sur la glace.
S'il n'y en a pas à Paris, il y en a une vicieuse à Toulouse.
Ah.
On serait curieux d'avoir effectivement une...
Censuré. Qu'est-ce que je fais? Il n'y a rien à faire là.
On va répondre à...
Oui, je sais pas si on m'entend, mais... oui, la fonction de conductivité thermique, en fait, je ne l'ai pas choisie. En réalité, c'est la littérature.
Bonjour, bienvenue sur notre plateforme de conférence. Pour participer à une conférence, appuyez sur la touche pilotage du site distant de la télécom.
Qu'est-ce qu'on fait?
Vous vous connectez à la conférence.
Il y a toujours des problèmes avec la glace.
Vous êtes actuellement l'unique participant.
Tant mieux, c'est la démocratie. Non, en fait, c'est une formule de Pringle et al. 2007, donc qui a été incluse dans d'autres modèles, mais aussi notamment donc dans l'IM. Et c'est quelque chose qui est bien validé à partir de campagnes d'observation in situ.
Et Toulouse, hein.
On a récupéré la vision de Grenoble. Est-ce que Toulouse est là? Grenoble, vous nous entendez?
Oui.
Il y a des questions de votre côté?
Non, il n'y a jamais de questions sur la glace de Merge d'Avenir. Surtout les questions vicieuses. Le stress, du coup, je ne sais pas ce que c'est.
Ça a été tout coupé.
Ah oui.
Du coup, une autre question, est-ce que dans le couplage avec les différents types de glace, vous en avez tenu compte des différents types de glace ou ça, pour les flux avec l'atmosphère ou c'est vraiment...
Alors actuellement, on envoie une information unique et agrégée. et on redispatch sur le code de glace, un peu selon les méthodes de Jean-Louis, des débuts de Gaston, hein, comme ça. Mais on a essayé aussi maintenant qu'on peut prendre en compte, parce que en fait, ça, c'était lié au fait qu'on ne pouvait pas prendre en compte plusieurs types de surfaces en tiling dans Arpège. Maintenant, on peut avec Surfex. Donc, on a fait des essais, et bon, ça semblait fonctionner à peu près, mais on n'a pas été jusqu'au bout. Il faudrait qu'on le mette proprement. Mais disons, les sorties de flux qu'on avait par le calcul Surfex et par le dispatching, finalement, était étonnamment peu différent. Donc, on n'a pas été plus loin.
Bon, très bien. Donc, ouais, vas-y. Faut prendre le micro, s'il te plaît, parce que...
On vous a retrouvé parce que vous avez perdu pendant un petit moment.
Ouais, bah, on a bien vu.
Donc, mais tu n'as pas eu.
Donc, on attend la question vicieuse.
Ouais, je savais pas qu'il y avait des mots qu'il fallait pas prononcer. Oui, on se demandait si on pouvait imaginer d'avoir gelato dans le code Nemo.
Ah, tu veux dire.
Mais je suis pas sûr qu'il y ait des gens de l'océan pour répondre systématique. Disons qu'on n'est plus à faire ce phasage côté Toulouse à intervalles réguliers.
Alors, je sais pas s'il y a quelqu'un pour répondre. Il y a quelqu'un pour répondre? Je pense que la question est notée. Il y aura une réponse la semaine prochaine. La semaine prochaine à Toulouse.
D'accord.
Quel micro?
Mais... la réponse arrive.
Là, le micro derrière toi.
Oui, je suis pas sûre que la réponse complète arrive. Dans le principe, il y a beaucoup de modèles qui existent et en particulier sur la glace, et on peut dire la même chose sur la biogéochimie, il y a une stratégie globale sur la plateforme. Donc aujourd'hui, c'est pas Gelato qui est dans Nemo. Ce qu'il y a dans Nemo dépend aussi de l'investissement des gens pour le faire. Mais l'idée globale, c'est pas d'avoir plusieurs composantes pour faire la même chose en parallèle. Donc pourquoi pas, mais c'est une discussion à avoir au sein du consortium.
Il y a aussi une autre version non officielle Nemo, je dirais, c'est CICE, ce qui est utilisé par les Anglais actuellement au sein de Nemo. Et je crois que le statut est le même que pour Gelato, c'est-à-dire que c'est pas vraiment officiellement dans les releases Nemo, c'est que LIM pour l'instant. C'est ça, hein? Bah, il y a trois modèles, en fait.
Il y a une référence et chacun, à l'intérieur de sa composante, peut construire... C'est peut-être les interfaces qu'il faut discuter, plutôt que de dire c'est tout ou rien.
Exactement.
C'est peut-être ça, l'objectif. Voilà, c'est pour ça que je parle d'un travail au sein du consortium avec tout le monde, parce qu'on peut dire la même chose pour la biogéochimie.
Oui, c'est tout à fait logique. Ouais.
Bien. Donc, je pense qu'on va continuer, parce qu'autrement, on ne va pas arriver non plus. Donc, on va passer à la présentation suivante.
C'est qui?
C'est Frédéric Cherouille, la présentation suivante.
C'est lequel? Ah oui, d'accord.
Alors moi, je vais revenir à des choses beaucoup plus locales. C'est l'évaluation, l'évaluation jour à jour de la physique de LMDZ à partir de sites instrumentés. Alors les deux questions Donc les deux questions que qu'on s'est posées, c'est évaluer et puis aider au développement de la nouvelle physique de IPSL CM5B, dont on n'a pas encore parlé maintenant, et puis explorer aussi la question des méthodes d'évaluation en comparant les modèles unicolones qui ont été beaucoup utilisés, surtout pour le développement des paramétrisations depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, et puis une méthode qui est utilisée essentiellement au LMD, qui est l'approche zoomée et guidée, qui a été développée au départ par Frédéric Ourdin. Alors, à propos donc des sites instrumentés, l'essentiel des travaux qui ont été faits, ont été faits à partir des observations faites au site du CIRTA. Il y a maintenant une dizaine d'années d'observations. Il y a un gros effort qui a été fait pour mettre en forme ces données de façon à avoir sur les quantités météo, les paramètres nuageux, les flux de surface, à avoir des moyennes horaires disponible donc sur pratiquement une dizaine d'années, pas pour toutes les variables, mais enfin au moins pour les variables météo, on a une dizaine d'années disponibles. Alors on voit, oui. Donc juste, ça c'est juste pour rappeler donc la création du fichier qui a été fait au CIRTA et qui regroupe donc toutes les variables, des variables nuages qui sont déduites des observations LIDAR, des variables de rayonnement et puis donc des variables de turbulence, des flux de rayonnement et puis également, alors c'est pas sur ce transparent, mais des quantités dans le sol, donc de température et d'humidité dans le sol, dont on va voir que elles sont assez importantes pour étudier le fonctionnement du modèle sur les surfaces continentales. Alors, un des premiers problèmes, c'est on a une maille de modèle et puis on a des données qui sont mesurées en un point. Est-ce que réellement c'est représentatif du comportement du modèle? Donc, il y a une étude qui a été faite en récupérant les observations faites par les sites météo qui sont dans l'équivalent de la maille du modèle pour regarder si les observations faites au CIRTA était représentative de la région CIRTA, la maille d'une maille du modèle d'à peu près 120 km. Donc, quelques-uns des résultats. Donc, sur la température, on a tracé donc la PDF des écarts entre les mesures CIRTA et puis la moyenne. Donc la moyenne faite d'une façon un peu particulière en pondérant en fonction de la distance donc pour représenter une partie de région. Ça, c'était surtout le travail d'Aurélien Campoy qui fait sa thèse avec Agnès Ducharme au Sisyphe et puis de Jean-Charles Dupont du CIRTA. Donc voilà, la PDF, donc des différences en température, on voit qu'on a un très léger biais, mais qu'on n'a rien de vraiment, donc en température, un biais de 0,2 degrés Celsius, mais qu'on n'est pas vraiment, on n'a pas une particularité de site au CIRTA pour la température. Pour le vent aussi, on a quelques biais, mais rien de très grave qui sorte. Alors, donc ça c'était du point de vue observation. Maintenant du point de vue modèle, les développements qui ont été faits qui sont en cours d'achèvement pour le modèle. Donc du point de vue de l'atmosphère, on est passé donc pour IPSL CM5 donc d'une couche limite de Lewis et puis le schéma nuage de Bonnier-Emmanuel et la convection d'Emmanuel, et on est en train d'arriver donc à une couche limite donc qui inclut les thermiques qui est celle de Catherine Rio et Frédéric Rodin et Toll, des nuages de couche limite qui ont une PDF bigossienne donc qui est le travail d'Arnaud Jam de sa thèse, et puis la convection a été nettement remaniée, modifiée, améliorée, notamment le déclenchement et la fermeture, et très récemment le couplage convection et thermique a été aussi revu pour prendre en compte des problèmes d'interaction convection peu profonde, convection profonde. Ce qui est un petit peu plus prospectif et qui donc c'est l'hydrologie. Donc pour les simulations couplées CMIP, ce qu'on utilise c'est Orchidée de couche. Ce qu'on a commencé à regarder, c'est l'impact du modèle à 11 couches, donc d'une hydrologie à 11 couches, qui vient du travail de Patricia de René et puis qui a été repris par dans la thèse d'Aurélien Campoy. Alors, donc au niveau de la structure du modèle, l'équation d'évolution, donc on peut la séparer en une partie d'évolution due à la dynamique et une partie physique. Et ce qu'on cherche à faire pour évaluer la physique, c'est de s'affranchir au maximum des tendances de la dynamique. Donc les deux méthodes qui sont proposées, la première c'est le zoomé guidé. On contraint la dynamique en guidant le modèle par des analyses, donc le vent et la température, et on rajoute un terme de rappel, donc qui est dans l'équation, la deuxième équation, donc le terme en phi a moins phi sur taux. La constante de temps donc varie, elle est très forte à l'extérieur du zoom, et puis elle est nettement relâchée à l'intérieur pour laisser le modèle se comporter le plus librement possible, enfin la physique. L'autre méthode, c'est donc la méthode unicolonne. Dans cette approche, on extrait une colonne du modèle et puis les forçages sont prescrits de façon externe. Donc ça peut être le résultat d'une campagne de mesure, mais aussi le résultat de simulation méso-échelle ou que sais-je. Et la dynamique donc est calculée on peut être soit complètement imposée, soit pour permettre quand même une interaction avec la physique, on prescrit donc les advections horizontales, c'est l'équation en bas à gauche, l'advection horizontale, et on a quand même un terme de couplage entre la vitesse verticale et le gradient de la variable qui permet un minimum de couplage entre la dynamique et la physique. Donc ce que j'ai surtout regardé, c'est l'approche zoomée guidée. Donc l'approche zoomée guidée ici, donc j'ai regardé plusieurs variables au sol essentiellement, donc la température à 2 mètres, le rayonnement descendant à la surface, le rayonnement short wave et long wave, et puis le flux sensible. Alors avec différentes versions de la physique et couplées à différentes, soit à l'hydrologie de couche, soit à l'hydrologie 11 couches. Ce qui apparaît, donc on le voit pas très bien, mais sur le graphe en haut à gauche, c'est que l'hydrologie est essentielle pour corriger un biais en température à 2 mètres qu'on avait dans la version AR4. Ce qui reste, c'est que on a donc la figure en bas à gauche, c'est le flux de rayonnement sensible qui est à tendance notre version meilleure, c'est la version P1 Hydro 11. On a tendance à surestimer le flux sensible. Et puis, au niveau du rayonnement, du rayonnement shortwave, on est pas mal. Et au niveau du rayonnement long wave, on a tendance à en été, on a tendance à le sous-estimer et à le surestimer en hiver. Donc ça, c'est pour des cycles saisonniers. Pour des cycles saisonniers, c'est 4 années simulées avec le modèle zoomé guidé. Une minute seulement. Donc là, uniquement pour illustrer le problème du flux sensible et du flux latent. Dans l'AR4 en bas à gauche, ce qu'on voit, c'est une difficulté à évaporer beaucoup. Et on voit qu'on corrige avec le modèle à 11 couches, on corrige partiellement ce problème. Les cycles diurnes, on note surtout quelques problèmes liés à un déficit de nuages en fin de journée et puis la nuit. Ça, c'est uniquement pour illustrer le fait que ce qu'on réussit à observer sur le CIRTA, c'est aussi des problèmes qui se manifestent dans le modèle couplé en mode climatique. Donc en haut, c'est notre meilleure simulation avec l'hydrologie 11 couches et puis la nouvelle physique. Et puis en bas, c'était la R4. Donc on voit que le biais est aussi corrigé en mode climatique. Et donc pour finir, une étude de cas, donc en regardant cette fois-ci en comparant l'approche 1D et l'approche 3D zoomée guidée, on a 2 jours de nuages bas, de petits cumulus qui ont été observés au CIRTA. Donc en haut, c'est le LIDAR, et puis en bas, donc il y a les 3 résultats de 2 donc en haut, au milieu, le modèle unicolonne forcé par un forçage qui n'est pas celui du GCM, avec des conditions limites qui sont soit les conditions limites du modèle, soit celles observées au CIRTA. Et puis le dernier, c'est le 3D zoomé guidé. Donc les 3 cas réussissent à reproduire des petits nuages, mais on voit des différences dans la hauteur des nuages et puis dans les nuages de nuit. Donc ça, c'est en cours. Les profils, la structure de la couche limite est légèrement différente dans les deux. Les conditions initiales sont aussi légèrement différentes. Et donc, ce que je vais finir de regarder, c'est est-ce que réellement on peut tirer les mêmes conclusions des deux approches. Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions pour Frédéric ?
Il y a une question à Toulouse. Les corrections sur les biais de température sont assez impressionnantes. Effectivement, est-ce que vous êtes persuadé que c'est pour les bonnes raisons? Est-ce que notamment les observations du CIRTA permettent de bien fermer le bilan d'eau? continentale et est-ce que les variations d'eau du sol sont plus réalistes avec cette version à 11 couches? Est-ce que c'est pour les bonnes raisons qu'on a corrigé le biais de température?
Alors, ce qu'on sait, c'est qu'au niveau des flux, donc le comment donc voilà, les flux, ce qu'on voit de façon très claire, c'est que en deux couches, on réussissait pas à évaporer en été parce que l'eau n'était pas disponible pour l'évaporation. Avec le 11 couches, l'eau est disponible pour l'évaporation. On réussit à évaporer. On a un flux latent qui est tout à fait, qui est nettement plus cohérent avec les observations. Ce qu'on voit, c'est en bas, par exemple, le graphe avec du noir et du rouge. Là, on voit que le flux latent a tendance à augmenter énormément. Et on réussit pas à avoir un flux sensible, le flux sensible a tendance à augmenter énormément et on réussit pas à avoir un flux latent suffisamment fort. Dans les deux en haut avec le 11 couches, on voit qu'on a réussi à augmenter la dynamique du flux latent, donc pour les valeurs importantes de l'évaporation, on réussit à évaporer mieux. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'en fonction de la physique, il y a une modulation. On a deux versions de la physique en haut, donc à gauche et à droite. Il y en a une qui réussit à évaporer beaucoup, l'autre qui évapore un peu moins. Et ça, ce sera la modulation essentiellement aux nuages et due à la paramétrisation, enfin à l'atmosphère.
Donc merci. On va passer à la suivante, c'est Alina. Entre-temps, une dernière question ou...
Bonjour, car je suis toujours en train d'apprendre le français, je vais faire ma présentation en anglais. J'espère que vous me suivrez. So I'm doing my PhD with Pascal Braconnot on the parameterization of air sea fluxes in the intertropical regions in the IPSL Earth System model. And within this context, we are now looking at the evaluation of the representation of the turbulent ocean atmosphere fluxes in this intertropical region in the model. So, first of all, the data we are using, our model, the IPSL CM5A version, in coupled version. We are using an ensemble of simulations. Right now, it's three experiments that we can use for the coupled model. And while we are comparing with the observational data, we try to disseminate between the effects of the atmospheric processes in the model on the fluxes and the effects of ocean atmospheric feedbacks. And we do this by also comparing with the atmosphere standalone runs, AMIP, for the same version of the model. So for that, we have an ensemble of five simulations. Just to put this into the temporal context, the coupled simulation runs from 1850 to 2005, while the AMIP simulations run from 1979 to 2009. So we are looking at the common period between the two. And then for the observation part, for the validation, we are trying to, the idea is to cover the range of available flux products, observational and reanalysis flux products used by the scientific community today. This is work still in progress. So for now, I'm using the HOPES-3 data set covering the period between 1988 and 2005. This is satellite-based data. The Da Silva climatology from 1945 to 1989. The OA flux, this is again a reanalysis product from 1958 to 2009, and finally ERS data for wind information, again satellite recent observations 1993 to 1998. Again, I have to stress that we plan to add more observational data sets for the validation. So what we do with this is we try to look at the turbulent fluxes, the latent heat flux, the sensible heat flux, the wind stress over the intertropical oceans, and try to analyze the spatial variations as well as seasonal variations in terms of climatology. So, for example, when we look at the spatial patterns, this is just a map of the latent heat flux over the intertropical oceans as given by our observational average. And then we compare between the coupled model in purple, the AMIP simulation in blue, and all the available observations in red. And here I'm showing the annual zonal means. So what we can see is that generally both runs, both sets of runs, slightly, but only slightly, overestimate the latent heat flux over the tropical oceans. Generally, they almost agree with the observations. So this is already a good point, but we are trying to go a bit deeper than this and try to understand to which extent this is for the right reasons or not. So then we look at the meteorological variables that go into the calculation of the flux. So in this case, for the latent heat flux, we have to look at surface temperature, the surface wind, and the specific humidity near the surface. And what we find is actually that even though the models tend to agree more or less with the observations in the net flux, for the different variables, we have biases. So I think we all know the surface temperature is underestimated by the IPSL coupled model right now. Both models are underestimating the surface wind with respect to observations. It's true that right now I only have one observational data set for surface wind, so maybe with time this analysis will change a little bit. And then for the specific humidity, in the atmosphere standalone one, this is a bit overestimated. In the coupled simulation, it's similar somewhat to the observations. What is interesting is that when we think about the effects of each of these three variables on the latent heat flux, we would expect from these biases that the models would underestimate the latent heat flux, if anything. And this is not what we see in the final results. So this indicates that in the model, we are overestimating the heat exchange coefficient used to get the final calculation of the fluxes. So basically, we tune our model so that even though our base parameters, our base variables are not quite right, the final flux will be okay. Next, we also look at the surface wind stress, and here it's the same sort of game we play. And this is even more clear that even though we underestimate the surface wind with respect to observations, we actually overestimate the wind stress for regions around 15 degrees south and north. So once again, this shows that we have a very strong drag coefficient that creates this reverse of comparison. Finally, we are not settled with just looking at annual mean patterns, but we also look at the seasonal variations. For this, we cannot work with the entire ocean because we would be averaging out over too large an area. So we focus on certain regions, for instance, the Indian Ocean, the warm pool in the West Pacific, the Niño 3 box, and the Northeast and Southeast Atlantic Ocean. Just one example, I will choose the Indian Ocean box. For this, we make a spatial average and then look at the seasonal variations. And in this case, in terms of absolute magnitudes of the parameters, it's the same story that we have seen in the averages over the entire intertropical oceans. Maybe it is a bit more clear that the surface temperature is underestimated in the coupled model, and so is the specific humidity. But in any case, the new information that comes from this analysis is the amplitude of variations throughout the year. And for the most part, it looks like for this particular box, our amplitudes of variability are similar in the models than in observation, maybe with a little bit of a weaker variation in the first part of the year for the coupled model. And then when we look at the individual components, we find the same story. But then, of course, amplitude of variation is one important parameter, but then the other one is the actual timeline of the variations. So here we have to go along the time axis and see if the changes coincide in between the models and the observations. And it looks like for the flux, we represent the seasonal cycle quite well. And for the surface temperature, the same, maybe with some anomalies for the coupled model, this time in the last part of the year, October, November, December. And then for the surface wind speed, we tend to have coherent changes in the wind between the model and the observations. However, with the specific humidity, we seem to have a rather different seasonal cycle than the one observational data set I have included hopes. So Yep. So the main point is to try to analyze, first of all, to see how our models compare in the representation of the surface fluxes with all the observational data that is out there, which already contains a lot of variation. So as long as the model is within that range of uncertainty, then, well, we can do not much better than that. When our models are really biased compared to all of the available observations, then we can try to fix it in some way, and then try to figure out why sometimes we are doing well, why sometimes we are not doing well, and see where we should do the nudging. Is it in the exchange coefficients, or is it in really in the modeling of the processes that go into creating the right variables, which then are used in the calculation of the fluxes? So thank you for your attention, and I welcome questions and comments.
Merci. Des questions pour Alina? Le micro. Tu peux le passer à nous.
En français ou en anglais?
Vous pouvez essayer en français si je ne comprends pas.
D'accord, alors je vais la poser en français. Donc oui, vous avez utilisé un seul produit de vent. C'est OAP, c'est pas... Bon, pardon? C'est ERS, enfin bon, il est connu pour être très fort. Donc sans doute, il faudrait prendre... d'autres, comme vous le disiez, d'autres produits de vent, en particulier pour comparer aux flux turbulents, de prendre les vents qui ont servi à calculer les flux turbulents. Par exemple, pour Aflox, c'est RA40. Donc, de conclure que c'est forcément le drag qui n'est pas bon, me semble un peu rapide dans cette figure.
Yes,
vous avez compris?
I think so. We already have a list of the products, of the observational and the analysis products we want to include in the analysis. This is ongoing work. ERA40 is one of them. ERA Interim is another one. The data sets from NOC is another one. There are several. And one thing I forgot to mention during the presentation is that during this comparison, we also look at the past version of the IPSL model of CM4 and try to play the same game and see what the changes were between the models, knowing that the parameterization stayed the same. So then we get to have a comparison of how the process is changed.
Une autre question d'ailleurs? Non?
Ici à Toulouse, je pense qu'on a le même problème dans notre modèle de surestimation de la chaleur latente sur les océans tropicaux. Et donc, ça sera vrai de beaucoup de présentations. Il serait sur certaines présentations ou certaines analyses intéressant d'avoir une analyse sur les deux modèles lorsque c'est possible. Mais je ne sais pas si c'est techniquement ou faisable et si ça intéresse les personnes concernées.
Oui, bah effectivement, c'est quelque chose auquel il faut penser. Hein. Mmh. Voilà. Dans le cadre d'Alina, c'est une première étape avant d'aller changer les paramétrisations en question.
Les données du CNRS sont sur ces cadres.
D'accord. On pourra regarder.
D'accord.
Je propose que l'on passe la dernière présentation en début d'après-midi, parce que autrement le temps du repas va être trop court. Et donc on s'arrête maintenant et on essaie de reprendre si possible à 2 heures pour ne pas trop retarder la fin de la journée.
D'accord.
Voilà. Ça marche comme ça de votre côté, là, Toulouse et Grenoble?
Oui,
ça marche.
Bon, d'accord, donc à tout à l'heure.